veut, mesdames, messieurs. Nous allons continuer, si vous le voulez bien, à jouer avec le feu, comme disait Fritz Stahl. Donc nous nous sommes un peu attardés, mais je crois que cela valait la peine, puisque ça fait partie de notre programme de réappréciation d'un certain nombre de traits qui sont prêtés doctrinalement au Gatha. Nous nous sommes attardés sur la strophe du Yasna 33, qui passe emblématiquement pour traduire ce que l'on a appelé le dualisme, en ne sachant trop bien comment le définir, des Gatha, et en tout cas la source de son système d'opposition entre un dieu du bien et un dieu du mal. Bon, alors, je vous rappellerai que nous avons, je vous ai proposé une traduction, dont j'ai d'ailleurs modifié le début par rapport au document qui vous a été remis, après mûre réflexion. Nous avons fait une analyse qui consiste à établir la syntaxe, d'abord, de la strophe, pour constater que chaque vers représente un ensemble syntaxique indépendant. Je vous rappelle notre traduction. Donc, alors maintenant que c'est le début de quelque chose, pas brouillé, je vais dire les deux manioux qui ont été considérés comme jumeaux pendant le sommeil. Deuxième vers. Au moment de penser, de dire et de faire, il y a deux manières de penser, de dire et de faire. Troisième vers. Entre les deux, et on sait qu'il faut comprendre Manu grâce à la strophe 36, qui viendra plus tard, c'est une ellipse, c'est pas une véritable ellipse, le mot figure déjà dans la strophe, mais l'élucidation de la personne qui est désignée par le pronom est rétrospective, hein, elle survient dans la strophe 36. Entre les deux Manu, les généreux font d'emblée la distinction. Non, les avares. Alors, notre première conclusion, c'est que nous avons, ce que nous avons dans cette strophe correspond à ce que Louis Renou aurait appelé une action rituelle déterminée. Cette phrase exprime une phase dans le processus d'installation et de sacralisation du feu rituel. Le chaînon que cette strophe représente dans ce processus, c'est l'identification du feu qui vient d'être allumé au Manu d'Ahura Mazda. Or, cette identification du feu avec une notion, une entité, une abstraction qu'on appelle le Manu, c'est une donnée immédiate, comme nous avons vu, du Yasna 36, de la part d'Avesta ancien qui est en prose, le Yasna Haptankaiti. Et pour ce qui concerne les Gatha, nous avons vu que cette identification sera quelque chose d'effectivement accompli, d'explicitement constaté dans la strophe 31.3, qui compose un réseau parallèle dans chaque Gatha, et ce qui, d'ailleurs, est un délai très long, comme vous pouvez le constater, puisque le Yasna 31.3, il y a un délai de 11 strophes. C'est énorme dans un texte de 100 strophes. Donc, on peut considérer que le Yasna 30, d'une certaine manière, présente un certain degré de stagnation. Mais nous allons y venir. Alors, deuxième réponse à laquelle nous avons cherché à répondre, c'est de savoir que représentent les Manus, que sont ces entités. Nous savons très bien, du point de vue linguistique, qu'il s'agit d'une sorte de nom d'agent. C'est un nom d'agent. Pas véritablement très fortement marqué, ce n'est pas un nom en tar, mais c'est un nom d'agent tout de même, construit sur la racine man, pensée. C'est donc une allégorie de la pensée. Selon le principe du mazdéisme même le plus ancien, le principe des Gatha même, où les entités divines, comme le Manu, mais aussi, nous l'avons vu, Armaïti, pour qui c'est plus clair, ont une existence à la fois matérielle et mentale. Matérielle, nous dirions, pour traduire les mots exactement, osseuse, comme dit le texte, réalité osseuse et une réalité de pensée, une réalité mentale. Alors, je vous fais cette hypothèse, je vous la propose. Du point de vue matériel, le maniou, c'est l'espace. Et les maniou, les deux maniou, puisqu'ils sont dits jumeaux, sont d'une part l'espace diurne et d'autre part l'espace nocturne. Du point de vue mental, c'est une hypothèse que nous avons dégagée du Yasna 43, ils traduisent une prise de conscience, un avis, comme nous pouvons traduire, qui s'exprime par le verbe penser sur la nature d'Ahura Mazda. Si l'on veut, il s'agit de l'image que le feu donne d'Ahura Mazda en évoquant son caractère lumineux et diurne. Ça, c'est donc pour l'identification des deux principes. Maintenant, je vais venir à la question, puisque tout de même nous sommes censés traiter dans ce cours, c'est la première fois que nous rencontrons l'une de ces mises au point depuis l'an dernier, mais c'est à la fin que ça vient, bien entendu, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut parler de dualisme ? Alors, je ferai deux réserves. Je ne vais pas vous parler de dualisme, je ne m'exprimerai pas dans ces termes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être très conscient d'abord. Il faut tout de même être très conscient de la nature extrêmement partielle de notre documentation. Le document que nous possédons, c'est essentiellement un texte liturgique. C'est tout. Nous avons une liturgie. Tous les concepts qui s'expriment dans ce texte surviennent dans un processus liturgique particulier, dont nous avons vu d'ailleurs que l'expression par le discours n'était pas spécialement claire, ni spécialement directe. Hein. Une des raisons, bien sûr, de cette obscurité, nous venons de la constater. Comment voulez-vous être clair en parlant de choses osseuses en termes mentaux ? C'est bien sûr la nature, une des raisons, n'est-ce pas, des difficultés que nous avons à appréhender ce qui se passe ici. Alors, puisque nous avons un texte liturgique, je ne peux pas absolument exclure qu'en dehors de ce texte, mais à l'époque même de ce texte, ces notions avaient développé une mythologie. Mais les textes témoins de ce processus de mythologisation dont nous avons des éléments dans la Vesta récente, pour les Gatha, malheureusement, c'est trop tard. Enfin, ces éléments de mythologisation, nous n'en disposons pas. Nous ne pouvons pas jurer que ce dont les textes ne parlent pas n'existe pas. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je ne peux pas conclure avec un grand mot comme dualisme. D'autre part, je voudrais aussi faire une autre réflexion à ce sujet, c'est qu'il faut aussi nous placer du point de vue du système. La question du dualisme, on peut s'interroger sur la légitimité parce qu'elle a été posée au début du XVIIIe siècle dans un cadre qui était strictement un cadre de théologie chrétienne. Par Thomas Hyde, bien sûr, avant même que l'on possède le texte de l'Avesta. Alors, je ne sais pas si c'est une notion qui est applicable. Moi, personnellement, comme simple lecteur de texte, comme philologue, et comme lecteur qui, conscient de la limitation contextuelle, la forte contextualisation, essentiellement liturgique de nos textes, je préfère m'exprimer en termes plus humbles. Ce que nous avons en réalité, mais c'est de cela que nous allons devoir nous occuper aujourd'hui, mais aussi, surtout peut-être la semaine prochaine, c'est qu'il y a la mise en place, avec cette strophe d'Emmanuel, à l'intérieur de la liturgie, d'un système d'antagonisme. Ce n'est pas une liturgie univoque. Elle met en scène un antagonisme. Alors, appelez ça dualisme si vous voulez, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une phase importante du processus rituel dont l'agatha est l'expression. Ce n'est d'ailleurs jamais plus clair que dans la première gatha, à savoir la gatha Arjunavaiti. Non seulement parce qu'elle est longue, mais à cause des raisons mêmes pour lesquelles la gatha est longue. C'est une gatha qui décrit avec précision un processus lent et extrêmement progressif. Ce n'est pas la situation du Yasna Haptenkaiti, ce n'est pas la situation même des autres gathas, même si les autres gathas aussi sont fondés sur un système antagoniste. Mais dans le yasna aptankaiti, comme nous l'avons vu avec le feu, tout est donné immédiatement. N'est-ce pas ? L'installation du feu, c'est une donnée immédiate. Ce n'est pas un long processus. L'agata vunavaiti exprime un long processus. Alors, le mot antagonisme fait un problème. Je vous avoue, je suis un peu perplexe de ces temps-ci pour une raison très, je vais dire, d'actualité. Lorsque j'ai reçu, il y a un an, la dernière version que Helmut Humbach, qui a 90 ans maintenant, a donné des gatha, il l'a intitulé « Zarathustra and his antagonists ». Le mot « antagonisme » revient dans son titre. Mais nulle part dans son texte et son commentaire, je ne vois pas pourquoi il a choisi ce mot. Je ne vois pas pourquoi il l'a choisi. Car il s'exprime en termes d'adversaires de la manière la plus traditionnelle, n'est-ce pas ? Les mauvais prêtres, Carapan et Kavi, les démons, etc. Alors, le mot antagonisme, nous allons devoir nous y mesurer dans le temps qui nous reste. Alors, voici. Nous allons reprendre la situation qui se présente à nous. On vient d'allumer le feu sacrificiel. On vient probablement de le consacrer en demandant au Dieu de descendre vers lui. Ce feu est l'image lumineuse, le manu d'Ahura Mazda, mais il est encore entouré des ténèbres de la nuit. Nous sommes dans la seconde partie de la nuit. Et ce feu, il n'est pas encore aisé de le distinguer des ténèbres. Mais ces ténèbres, il existe. Il existe en contradiction, en antagonisme avec les ténèbres, et c'est le sens même de la strophe suivante, de la strophe du Yasna 34, qui considère comme un fait initial le fait que les deux manus se rencontrent, c'est-à-dire se trouvent en contact. Nous sommes dans la situation d'un antagonisme de contact entre la faible lueur de quelque chose et la ténèbre. C'est cette situation qui doit évoluer, et cette situation de contraste doit faire l'objet d'une discrimination. Il faut faire la différence entre la lueur faible du feu et les ténèbres de la nuit. Savoir faire cette discrimination va susciter un choix. C'est l'articulation ici et celle de la discrimination, vicitta. Cette articulation est exprimée dans la strophe qui précède même le Yasna 33, dans la strophe 2, où l'on parle des choix de la discrimination. La discrimination est à la source d'un choix, vicitta, et le choix est exprimé par le verbe var, que nous connaissons bien, mais ce n'est pas le nom des Fravashi comme dans l'Avesta récent ou le Yasna Aptankaiti. Enfin, ce choix doit susciter un déplacement dans l'espace. Ce déplacement dans l'espace, il est annoncé aussi avant la strophe des jumeaux, dite des jumeaux, avant la troisième. Il est annoncé immédiatement par l'adresse vocative de la première strophe, Ishento. Ishento s'adresse à ceux qui veulent venir, auprès du feu. Et cette idée de déplacement dans l'espace exprimée par des verbes de mouvement, nous allons le retrouver dans toutes les strophes qui vont suivre la strophe 3, avec un certain délai, parce qu'il faudra d'abord parler du choix dans la strophe 5. Mais dans la strophe 6, vous voyez que les démons qui ne font pas la discrimination, les démons qui ne font pas bien la différence entre les deux manus, parce que l'illusion les saisit quand ils délibèrent, dit le texte, court. Donc un verbe relativement aigu de déplacement dans l'espace, ils courent ensemble, ils courent de concert vers Aishma. Aishma qui rend pourtant malade l'état d'existence des hommes. il court, en opposition avec cette action un peu paroxystique des démons, nous trouvons dans la strophe 7, hein, le mouvement dans l'espace beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus mesuré, venir simplement, chazat. On vient vers ce feu, on vient vers ce feu, ou bien le feu vient vers notre état d'existence. La double ellipse bon, nous oblige à trouver un balancement, mais les deux notions qui sont évoquées dans l'ellipse, d'une part le bon feu rituel et d'autre part l'état d'existence qui s'exprime auprès de lui, hein, eh bien, on vient. Alors, ce mouvement que le choix suscite trouve son accomplissement dans la vaste métaphore de la strophe 10, la vaste métaphore de la strophe 10, où nous trouvons quelque chose peut-être qui nous a déjà, qui ne nous paraîtra pas neuf. Nous allons le regarder un instant, n'est-ce pas ? Alors, il y a un premier vers où il doit arriver une catastrophe aux adversaires, à la tromperie, à la drouche, bien sûr. Et puis, la métaphore va survenir à partir du deuxième vers. Et donc, il faut que, par contre, de très rapides coursiers qui gagnent la bonne renommée soient attelés pour aller jusqu'à la bonne habitation de la bonne pensée de Mazda et de l'agencement. Sous l'apparence d'une métaphore très courante, cette métaphore qui, dans la poésie indo-iranienne ancienne, figure, transpose les prières comme un attelage qui s'en va chez les dieux, nous demande tout de même une certaine réflexion. Parce que quelque chose est un peu à la réflexion. Il y a un mot malheureusement ambigu, un mot très connu, mais dans le sens le mériterait, nous aurons bientôt l'occasion, la semaine prochaine, de le faire, n'est-ce pas, un mot dont le sens mérite d'être examiné d'assez près dans le cadre de la gatha. Et c'est un mot qui n'est pas exclusif de la gatha Ahunavaiti, n'est pas exclusif, il est attesté ailleurs, avec des sens parfois divers, mais la gatha Ahunavaiti en fait un usage insistant et particulier. C'est le mot srava. Oh, je sais bien, j'ai écrit dans les textes vyavestiques, et je vous l'ai encore dit, peut-être même cette année, ce mot « srava », un dérivé du verbe « sru », indien « shravas », oui, c'est le fait d'entendre. C'est un abstrait formé sur le verbe « entendre ». Il y a deux sens de base, fondamentalement. L'hymne. C'est souvent le sens que j'ai choisi de conserver parce qu'il me semblait qu'avec ce mot, nous avions quelque chose d'assez précieux, c'est-à-dire le mot par lequel les gathas se désignaient elles-mêmes. Car le mot gatha est un mot de l'Avesta récent. C'est le nom que portent ces textes selon l'Avesta récent, mais le mot gatha ne figure pas dans l'Avesta lui-même. Et si les gathas se réfèrent parfois à elles-mêmes, sous forme de texte, en tant que texte, il me semblait que c'était par srava. Peut-être est-ce un fait un peu gênant que ce mot n'existe que dans la gatha Ahunavaiti. Les autres gathas ne mentionnent pas le terme srava. Et nous allons voir que ce mot fait une apparition extrêmement fréquente lorsqu'il sera question des démons. Alors, l'autre sens, c'est celui qui figure dans la traduction, qui est traditionnel. C'est peut-être... D'autres que moi ont mis plutôt l'accent sur le fait d'entendre, n'est-ce pas, la renommée, hein, le sens de renommée. Et il s'agit, les choses sont présentées, comme nous l'avons vu, comme une course d'attelage qui a pour prix le srava, la renommée. Nous connaissons la métaphore avec un autre but, hein, le prix de victoire, notre prix de victoire qui n'est pas la renommée. À la fin du sacrifice, tout à la fin de la gatha, ce que cet attelage s'en va gagner, c'est le mijda, c'est-à-dire le prix de victoire finale, hein, en quelque sorte l'immortalité, comme nous en avons parlé la fois dernière. Or, ici, justement, nous ne sommes pas à la fin du processus, nous sommes au contraire au début d'un processus, et le but de la course, c'est autre chose, c'est le srava. Vous voyez que nous avons intérêt à essayer de bien comprendre ce texte. Je ne suis pas sûr que ce soit la renommée Je ne suis pas sûr que c'est l'hymne, nous allons en reparler. Parfois, c'est l'hymne, c'est quelque chose que l'on prononce. Lorsque Strava survient comme objet d'un énoncé, de quelque chose que l'on dit, du verbe dire, d'un verbe énonciatif, nous sommes tranquilles. Mais n'oubliez pas que ce qui doit s'affirmer à terme dans le processus liturgique de la gatha, c'est quelque chose, bien sûr, que les hymnes représentent, mais uniquement partiellement. C'est le bruit, c'est la rumeur. Il faut que, autour du feu, et nous sommes ici dans la situation ignée type, n'est-ce pas, le bruit que l'on fait s'affirme, hein, à l'oreille des dieux. Or, le bruit, nous l'avons déjà eu l'occasion, depuis quelques années, de le décortiquer ensemble, c'est naturellement le crépitement du feu. La strophe 2 y fait allusion. Pas écouter au bruit. Le bruit, la gaucha, le bruit, c'est le crépitement du feu dans le Yasna 32. Mais c'est aussi, de façon très insistante, selon l'introduction même au gatha dans le Yasna 27, le bruit des mortiers qui pressurent le haoma. Et dans le Yasna 30, lorsque le moment vraiment critique, le moment de la partie sacrificielle de la gatha surviendra avec ces deux offrandes, le haoma et l'offrande de graisse dans le feu, eh bien, ce sera ce sur quoi l'on mettra l'accent, ce sera sur le bruit des mortiers, puisque l'on invoquera ce bruit sous la personne du dieu Srausha. D'une certaine manière, peut-être bien que ici, ce qui est préfiguré dans ce voyage, cet attelage, c'est peut-être gagner la bonne rumeur, n'est-ce pas ? Gagner la bonne rumeur, arriver à faire entendre le bruit rituel à l'oreille des dieux auprès du feu. Alors, je voulais un peu m'attarder pour cette raison sur cette métaphore. Et le fait d'aller ou de ne pas aller, hein, le déplacement dans l'espace, hein, le fait que peut-être il y a d'une part un trajet facile d'une part, et d'autre part, un trajet impossible dans les difficultés de la route, eh bien, cette idée qui apparaît dans la strophe 31, 31, sert à faire transition avec une nouvelle notion, qui est aussi une notion sur laquelle la gatha Hunavaiti est seule à s'étendre avec cette insistance, c'est la notion de l'urvata. C'est la notion de l'urvata, mot qui a aussi son équivalent indien, connu, qui est le vrata. Alors, le sens a été fort discuté. Le vrata, c'est toujours plus facile de prononcer et d'écrire le mot sanskrit parce que l'orthographe est moins élaborée. On voit bien que dans les strophes qui vont suivre, jusqu'à la strophe 31.3, où le nom du feu est explicitement mentionné, eh bien, il sera question d'un nouveau chaînon du processus d'installation du feu sacrificiel, c'est établir avec les bonnes divinités, Ahura Mazda en tête, un vrata. Je vous propose de... Le mot vrata, oui, je prends les choses dès le début, excusez-moi. Le mot vrata est traduit depuis très longtemps, depuis le dictionnaire de Bartholomé, jusqu'aux tentatives les plus récentes, dont encore celle de Humbard l'an dernier, n'est-ce pas, par les ordres, le commandement, les commandements d'Ahura Mazda. C'est le sens qui figure au dictionnaire de Bartholomé. C'est le sens qui a été proposé, qui a été confirmé par une analyse très approfondie. C'est un gros livre sur la notion à la fois sanscrite, védique et avestique du terme, n'est-ce pas, par Hans Peter Schmidt. C'était en 1958. Donc la confirmation se trouverait là. Je pense que nous devons peut-être manifester un certain scepticisme vis-à-vis de ce sens-là, car tout de même, on ne peut pas dissocier le terme urvata. Vous voyez son orthographe, hein, avec dans la dernière syllabe cette dentale sourde, T. Hein. Mais on ne peut pas le dissocier d'un autre mot qui, lui, est très fréquent en avestique récent, alors que urvata n'existe plus. C'est le mot urvata. avec non plus une dentale sourde, mais une dentale sourde aspirée, urvata. Or, vu le grand nombre de ces attestations et son emploi dans des textes qui sont beaucoup plus explicites, car l'Avesta récent est bien plus simple à comprendre que les Gatha, on voit bien ce que c'est qu'un urvata. Cela désigne des gens qui sont unis par une alliance. Il y a une alliance entre eux. Hein. Le mot est particulièrement fréquent dans le Myriashtha, car c'est une qualité pour le Myriashtha d'être urvata, un peu que deux parties soient urvata, et c'est un terrible défaut que d'être anurvata, hein, sans urvata, fatalement, puisque Mitra est l'allégorie du contrat. Si un dieu a pour fonction même de faire respecter le contrat, la notion de traité d'alliance entre deux parties est évidemment essentielle. C'est donc une notion qui est particulièrement vivace dans le Myriashtha Mitra que cette notion-là. Donc, on ne peut pas. Il semble que urvata soit à urvata, hein, très exactement, parce qu'il faut tout de même bien être précis aussi au point de vue grammatical et se poser la question de la dérivation que nous ne pouvons pas constater en indien, mais il y a une caractéristique, au séminaire, je vous l'ai déjà exposé, caractéristique linguistique particulière, c'est que en avestique, en vieille avestique aussi, surtout en vieille avestique peut-être, il y a une beaucoup plus grande vivacité des suffixes fondés sur une dentale aspirée. Cette catégorie de suffixes, cette composition phonétique du suffixe a été fortement réduite en indien, pour des raisons que j'ignore. Hein. Mais il y a une beaucoup plus grande vigueur, il y a un beaucoup plus grand conservatisme de ce point de vue-là dans la langue avestique. Et je vous en donnerai un exemple que nous avons rencontré, même si nous ne voyons pas bien le processus de dérivation dans sa réalité phonétique. N'oubliez pas que nous avons un terme en vieille avestique qui est data, n'est-ce pas ? Ce sont les données, les dispositions, les règles, peut-on dire, n'est-ce pas ? Les règles sacrificielles, les obligations sacrificielles, les data. Ceux qui respectent les obligations sacrificielles, ils sont data. Urvata, urvata. Vont exactement la même situation. Le urvata, l'alliance, ceux qui respectent l'alliance, urvata. Les règlements sacrificiels, ceux qui les respectent. Pour malgré tout ne pas laisser d'ambiguïté, je dirais que ce qui semble se produire, c'est que nous avons une syncope de la voyelle finale et qu'à cette voyelle finale A, on substitue un suffixe adjectif qui présente la voyelle A, bien sûr, mais aussi qui est précédé d'une laryngale 2. Et cette laryngale 2, ça, c'est une caractéristique que nous lui connaissons, provoque l'aspiration des occlusives sourdes. Je vois les choses comme ça. Mais donc, ceci nous invite, hein, à voir dans le vrata une alliance, une forme d'alliance. Ce dont il est donc question maintenant, au début, à l'extrême fin du Yasna 30, au début du Yasna 31, qui va en faire son sujet même, n'est-ce pas, c'est l'établissement autour du bon feu rituel d'une alliance avec les divinités. Or, cette alliance vrata comporte trois éléments. Le processus, la réalisation de cette alliance comporte trois conditions. Dans un premier temps, il s'agira de faire le vide, autour du feu. Cela paraît assez. Pendant tout un temps, je n'ai pas bien compris ce processus, et peut-être vous en souvenez-vous, je ne sais pas si vous y avez été attentif, mais lors de sa conférence l'an dernier, le professeur Panaïno, qui nous a parlé du feu, a exprimé à un moment son scepticisme à propos, le trouble qu'il avait à comprendre qu'il fallait écarter tout le monde, que ça n'était pas quelque chose de parfaitement compréhensible. Vous allez voir que le processus a sa logique interne. N'est-ce pas ? Dans le début, faire le vide, c'est d'abord murmurer pour ne pas être entendu, dans la première strophe. Hein. La traduction de la première strophe du Yasna 31, 1, hein, « Votre été que nous murmurons », dit le texte Marento, c'est parler à voix basse, c'est murmurer. Hein. « Les traités que nous murmurons, nous les définissons comme des paroles que ne peuvent entendre les adversaires, bien entendu. Hein. » Mais ces paroles sont très bonnes pour ceux qui ont confiance en Mazda. Donc il faut murmurer pour ne pas être entendu. Lorsque l'on essaye de maîtriser, car les vratas sont une parole et il faut les maîtriser, hein, il faut les apprendre. N'est-ce pas ? Et il y a une terminologie extrêmement complexe de diverses. Vous comprenez bien, nous sommes dans le cadre d'une tradition orale. Hein, nous ne pouvons même pas nous imaginer ce que ça signifie. Mais les termes qui définissent l'apprentissage des textes sont nombreux, très techniques, et parfois nous ne voyons pas bien à quelle nuance même ils se réfèrent. Mais un de ces verbes, c'est le verbe « satch », et nous l'avons dans le Yasna 31, dans la dernière strophe du Yasna 31. Vous cherchez à les maîtriser, c'est-à-dire vous cherchez à les apprendre. C'est des paroles que vous apprenez, pour les retenir par cœur. Mais on va les murmurer d'abord pour qu'ils ne soient pas entendus par les adversaires. Cela, c'est la strophe, le Yasna 31.1. Je ne m'attarderai pas sur la deuxième strophe parce qu'elle est relativement... Elle présente des difficultés, n'est-ce pas ? Mais regardez le troisième vers de la troisième strophe, n'est-ce pas ? Donc, la langue de ta bouche, ô Mazda, afin que par lui, hein, par lui, j'écarte tous les vivants, écarter tous les vivants. Pourtant, vivre n'est pas une action négative, c'était la base de la critique de Panaïno. Comment est-il possible, alors qu'il y a eu une référence d'ailleurs à la vie dans la strophe précédente, même si elle présente beaucoup de difficultés, nous vivons selon Acha, et voici que tout ce qui vit, il faut l'écarter autour du feu. Ça fait partie du vide préalable. Mais maintenant, nous allons comprendre pourquoi. Nous allons comprendre pourquoi. C'est la quatrième strophe, elle présente, non seulement elle est très claire, mais elle présente un multiple intérêt. Nous allons lire la traduction complète, cela vaut la peine. « Quand les Ahouras seront là », ah oui, c'est l'une des deux strophes où clairement il y a une attestation plurielle du mot « Ahoura ». Donc ici, Ahoura ne désigne pas seulement Ahura Mazda. Il désigne Mazda, entre autres, mais aussi beaucoup d'autres. Hein. C'est des strophes qui, si on est intéressé par le problème du monothéisme, ont bien sûr fait couler beaucoup d'encre. Deux strophes gathiques mentionnent les Ahoura au pluriel. Celle-ci, entre autres. Ici, c'est très clair. Hein. Il y a une liste énumérative. Donc, quand les Ahoura seront présents, quand ils seront là, Acha, l'agencement, et Mazda, avec la mise en mouvement, Ashi, et la juste pensée, Armaïti, j'exigerai d'eux, avec la très bonne pensée, de posséder un pouvoir autoritaire dont la croissance nous permettra de vaincre la tromperie. Alors, je pense que le terme essentiel et qui nous permet de comprendre le processus en cours, c'est une épithète, hein, une caractéristique qui est rapportée au seul Acha. Mais méfions-nous de ces traits rhétoriques. Acha est le premier membre mentionné. C'est donc lui qui attire et qui, bien sûr, provoque un accord singulier dans ce cas-ci. Hein. Avec lui, il attire la caractéristique accordée à tous. Ce sont ceux qu'il faut inviter. On fait le vide parce que dans ce vide, on va inviter exclusivement. on lance l'invitation. C'est un important chaînon du processus rituel. N'oubliez pas, lorsque nous avons tenté de définir les fonctions sacrificielles en vieille avestique, n'est-ce pas ? Et nous disposions pour cela d'une liste que nous a conservée l'Avesta récente dans la deuxième strophe du Yasht 3, qui semble dresser une liste de 8 spécialistes d'un type particulier de parole ou de la prononciation d'un genre liturgique particulier. L'un d'entre eux est le Sbatar. Le Sbatar, n'est-ce pas ? Donc, celui qui lance l'invitation, celui qui fait l'invitation au Dieu. Hein, le raciné où hein. Oui, il y a des petits problèmes orthographiques, mais faites-moi confiance, c'est bien un dérivé de la racine ou, qui est une racine en oulon, et son nom paraît bien en vieille avestique, la notion, l'action qui correspond est la zouiti, c'est-à-dire l'invitation qui est lancée aux divinités pour le sacrifice. Donc voilà, dans l'espace, l'espace qui a été garanti, protégé, préservé autour du feu rituel, l'on invite, ben, donnons-lui son nom, le Panthéon. Le Panthéon. Car il y a dans cette strophe, c'est la deuxième, c'est le deuxième intérêt de cette strophe, n'est-ce pas ? Bon, c'est évidemment un développement, un nouveau développement du processus, l'invitation. Mais aussi, c'est la première fois que le Panthéon est rassemblé. Quand peut-on parler de rassemblement ? Parce qu'on prononce tout le temps le nom d'Asha, le nom de Vahumana, le nom de Kshatra. Eh bien, je vous invite à considérer qu'il y a un rassemblement des divinités. Ce n'est pas un acte dérisoire. Il ne se produit pas toujours. Il se produit à des moments bien définis. Quand peut-on considérer que le rassemblement est général ? Eh bien, lorsque les trois entités neutres les plus fréquemment mentionnées, explicitement définies comme des divinités par leur lien génétique avec Ahura Mazda, ou parce qu'on peut leur parler comme à des personnes, eh bien, il s'agit d'Asha, de Vahumana et de Kshatra. Tous les trois sont là. Mais c'est déjà beaucoup plus rare. Il faut que soit adjointe l'entité féminine Armaïti. C'est la seule entité féminine permanente qui, elle aussi, est génétiquement liée à Ahura Mazda et à qui l'on peut aussi parler comme à une personne. Armaïti est là. Et alors, le rassemblement, je dirais, est général lorsque on ajoutera à ce petit groupe une autre divinité féminine. On verra que c'est la règle. Alors il y a rassemblement. Il y a rassemblement du Panthéon. Et ici, cette entité, elle est là, elle est coordonnée, il y a Armaïti, c'est Ashi, pas Ashi. C'est une des... Il y a donc... Nous avons donc ici le rassemblement de 6 entités, de 6 entités avec Ahura Mazda. Ça, c'est un rassemblement. Il faut compter les choses dans cette composition. Parce que, représentons tout bien les choses, dans le Yasna 28, qui est une demande adressée aux divinités, toutes ces entités apparaissent, mais en pointillés, en ordre dispersé. C'est même une des grandes caractéristiques de la demande qui est faite par les sacrifiants dans le Yasna 28, que de dire « Oh, toi, donne-moi ça, et puis toi, donne-moi ça, accorde-moi ça. » Chaque divinité est tour à tour, et tour à tour invoqué pour accorder un bienfait. Mais jamais ces entités ne forment un corps. Jamais. Ça arrivera quelquefois, et vous ne serez pas surpris, nous n'arrêtons pas de constater cela. Ça arrive une fois au moins dans chaque gatha. Dans chaque gatha, ça arrive. Dans la gatha Vunavaiti, ça arrive plusieurs fois. 2-3 fois exactement. Nous l'avons constaté au moment où l'on fait la libation de Hauma auprès du feu sacrificiel. Brutalement, toutes les entités sont là et constituent des forces qui permettent le lever du soleil. Parce que la libation de Hauma sur la terre a donné l'impulsion. Toutes sont rassemblées à ce moment-là. Et puis toutes sont rassemblées, finalement, lorsque l'offrande de graisse dans le feu a eu lieu. le Panthéon est rassemblé trois fois dans la Gatha, vous l'avez dit. Ici, dans le processus d'installation sacralisée du feu. Ici, puis dans, lors de la libation Tauma et lors de la libation de Grèce dans le feu. Ce sont les trois rassemblements. Nous avons deux rassemblements jusqu'ici. Nous allons voir qu'il y en aura un troisième. Premier rassemblement, c'est la triade. La pensée, la parole et l'action ne surviennent plus non plus en ordre dispersé. L'apparition des deux manioux rassemble les trois niveaux du comportement. Ils deviennent un tout. Deuxième rassemblement, les entités divines ne sont plus non plus des éléments séparés. La cohésion est créée, le corps divin est constitué autour du feu. Alors, on pourra constater à partir de la strophe 4, mais cela va se prolonger dans les strophes qui suivent, n'est-ce pas, que très probablement, du point de vue des manipulations, ce qui se passe ici est accompagné par des opérations qui consistent à faire grandir la flamme du feu, à activer le feu. Voyez dans la strophe 4, celle que nous étions en train d'analyser, Vrda, l'accroissement, hein, par l'accroissement, par le fait de grandir. Nous pouvons sauter une strophe, et dans la sixième strophe, vous verrez Vakshat, Vakshat, il la croît. Hein, le pouvoir qui va croître avec la flamme du feu. Strophe 7. Ukshio, c'est adressé à Uramazda, mais tu grandis. Donc, les verbes qui traduisent d'une manière ou d'une autre une augmentation, vard ou vaksh, sont présents dans toute la. Dans les strophes, n'est-ce pas, de 4 à 7. Alors, nous savions aussi, pour analyser la suite, c'est la vache qui nous l'a confié dans le Yasna 29, 8 ou 9, bon, pour dire portrait, n'est pas, la vache nous a dit que le feu avait des mains, hein, qui sont ses flammes, hein, donc que l'aide qu'il peut apporter était zastavat, l'aide de ses mains, c'est même le mot qui nous a permis de détecter la présence du feu dans le processus liturgique de la Gatha. Présence, mais les flammes du feu, ce sont certes des mains, mais c'est aussi, le Védique ne me contredira pas, au contraire, il me confirme, mais ce sont aussi des langues, n'est-ce pas ? Ce sont bien sûr les flammes du feu, par ailleurs, c'est la langue d'Ahura Mazda. Hein. Or, voilà ce dieu tout à fait dématérialisé que nous avons dans les Gathas, on va lui demander de parler, hein. On va lui demander de parler. Et on insistera bien sur le fait qu'il doit parler avec sa langue, ce qui nous paraît singulièrement redondant, n'est-ce pas ? Mais la présence de la redondance, il me semble qu'elle a sa signification, n'est-ce pas ? C'est que, comment voulez-vous qu'Ahura Mazda parle ? Mais dans la situation où nous nous trouvons, il est sûr que le moyen qu'il a, évidemment, de prendre la parole, les sacrifiants viennent de lui donner en allumant le feu, n'est-ce pas ? Et il va donc parler avec sa langue, on trouvera le verbe « vaucha » dans la troisième strophe déjà, hein. « Dis-nous le vrata », n'est-ce pas ? Dis-nous l'alliance que tu vas établir avec nous, tu vas « vaucha », hein, afin que nous le sachions. Hein. On retrouvera aussi cet appel à parler dans la strophe 5, hein, « tatmoi vichidiai vaucha », dis-moi cela pour que je puisse faire la distinction ou à Ahura Mazda. Et puis, on sait qu'un jour ou l'autre, il dira l'essentiel, parce qu'il dira ce en quoi consiste la phase finale du sacrifice, qui est l'immortalité. C'est la raison du futur, hein, exprimée par le subjonctif vauchat. Il me dira quelque chose un jour. Donc, alors, voilà donc le contact qui s'établit avec les divinités invitées, le contact sera oral, il consistera à établir une alliance et il va s'en suivre, la Yasna 31, le Yasna 31 est un texte très long, il s'en suivra une prise de conscience cosmogonique et un interrogatoire. Ben, j'attirerai votre attention, mais ici c'est une, nous sommes plutôt dans un moment de surplus littéraire, je vais dire, par rapport au processus liturgique. J'attirerai votre attention peut-être tout de même, d'un point de vue littéraire surtout, sur la strophe 8, n'est-ce pas ? Sur la strophe 8 qui est partiellement cosmogonique, qui est aussi ambiguë, qui porte sur un double sens dans l'identification d'Ahura Mazda avec la lumière du feu. Voyez, donc, je pense, hein, c'est le verbe qui traduit un manu, un avis sur Ahura Mazda, que tu es ancien, que tu es antique, tu as toujours existé dans le passé. Mais en même temps, Pauvim, c'est aussi comme cela que l'on désigne le plus vieux des fils. Tu es l'aîné. Hein, tu es l'aîné. Et alors, par contre, le sto y est adversatif. Hein, pour cela, j'ai traduit par quoique. Mais tu es aussi Yazoum. Nous avons déjà rencontré ce mot avec la fille de Zarathoustra pour Uchista. Yazoum, ça veut dire c'est le fils cadet. Hein, fils cadet. Donc tu es à la fois le fils aîné et le fils cadet. Paradoxe sur Ahura Mazda. Mais aussi, tu es très ancien, tu es de jadis, le feu a toujours existé. Mais aussi, tu es celui d'aujourd'hui. Hein, ce que cela veut dire aussi, Yahou. Ben, l'aurore est. L'aurore, Yarvi dans le Rig Veda, Yarvi, ça veut dire c'est l'aurore qui vient de se lever aujourd'hui, la dernière de toutes, hein, celle que nous voyons maintenant. Or, c'est le feu d'aujourd'hui, c'est le feu sacrificiel d'aujourd'hui, hein, le feu qui a toujours existé, mais qui est aussi d'aujourd'hui. Et en même temps, tu es le fils aîné, tu es le fils cadet, et en même temps, tu es le père. Hein, donc, c'est l'ensemble des qualités qui sont prêtées dans cette prise de conscience cosmogonique sur Ahura Mazda. Ici, c'est un petit excursus littéraire. Il n'arrive pas souvent que les gathas puissent littérairement nous paraître émouvantes. Ici, elles le sont, je trouve, pas une question de goût, bien sûr. Hein. Mais cette prise de conscience cosmogonique va continuer sur plusieurs strophes. L'invitation à parler va se transformer elle aussi en interrogation, parce qu'on a appelé un interrogatoire, et je vous rappellerai que l'interrogatoire se porte le nom de Phrasa. L'exemple même de l'interrogatoire que nous voyons dans les gathas, c'est le Yasna 44, donc c'est un texte qui ne fait pas partie de la première gatha, de la gatha Unavaiti, et où on voit bien sûr, que l'interrogatoire est une forme d'invitation à parler, puisque le Yasna 44 combine les deux données, il dit « Tâte-toi pour ça, je te demande, hein, je pose ma question, et urshmoy vaucha, réponds-moi, hein, dis. Hein, » Donc, « je demande, dis. Hein, » Les deux processus sont très clairement liés dans le Yasna 44. Et insensiblement, on passe de la cosmogonie au présent et même au futur. Mais je vous lirai, je vous laisserai lire ce texte seul, parce que nous ne pouvons pas nous attarder à tous les détails. Dans l'élaboration de notre analyse de préparation, de mise en forme du feu sacrificiel, je crois qu'il faut nous attarder sur la 16e strophe, surtout, où quelque chose de nouveau va se produire. Là, vous voyez que la 16e strophe, ben, elle est intégrée dans le processus, elle est l'avant-dernière du processus d'interrogation, puisque elle s'ouvre par Pursa, je te demande, avat, ce qui est adverbial, qui veut dire aussi. Et alors, il y a une question, de questions indirectes, et j'attirerai votre attention sur celle qui ouvre, sur la question qui ouvre le dernier hémistiche. Ça va vous rappeler quelque chose, n'est-ce pas ? Yad, quand ? Je te demande quand ? A Ankat sera présent, sera là, celui-là. Ça nous rappelle quelque chose. Demander quand quelqu'un sera présent, c'était très exactement la question de la vache qui a introduit, qui a attiré l'attention sur la nécessité du feu sacrificiel. À la fin de sa plainte, la vache insatisfaite dit « Oui, mais attention, quand sera-t-il là, celui-là, n'est-ce pas, qui pourra lui apporter une aide pourvue de bain ?» Donc, nous avons ici les mêmes ingrédients, la question « quand ?», la question de la présence et le pronom démonstratif fort « ou vaut ?». Mais ici, ça, c'est pour la forme. Mais il y a un deuxième point qui doit retenir notre attention, c'est qu'un terme neuf est introduit ici. Ce « huvo », celui-là dont on exige la présence, dont on s'interroge sur la présence, il est ici qualifié par « hudanu » dans le premier vers. « Hudanu »,« hudanu ». Or, le mot « hudanu », il n'est pas fréquent. Il a cessé de vivre en avestique récent. On ne le trouve plus que de manière visiblement inspirée par le vieil avestique que dans la liste des noms d'Ahura Mazda du Yashte 1, où Ahura Mazda est dit « un de mes noms, c'est Hudanu ». Et j'ai même un deuxième nom qui est le plus Hudanu. Bon. Mais en dehors de cela, Hudanu est attesté trois fois. Et vous ne serez pas surpris, à nouveau, une fois dans chaque gatha polyatique. Une fois dans chaque gatha. Voici notre attestation de la gatha Ahunavaiti. Or, Hudanu a un équivalent sanskrit. Vous ne serez pas surpris non plus que c'est une qualification fréquente du feu. C'est Sudanu. On a l'impression, lorsque l'on voit la racine da, qu'il s'agit aussi d'un terme qui doit signifier d'une manière ou d'une autre donner, qui donne, généreux, n'est-ce pas ? C'est évidemment très tentant, mais c'est peut-être un peu simple. Vous verrez souvent la traduction, mais vous verrez aussi, si vous consultez le dictionnaire étymologique de Mayrhofer à propos de Sudanu, que tout de même le nom d'anu, ça peut être autre chose qu'un dérivé du verbe da. Le mot Danu, c'est le nom du Danube d'ailleurs, hein, Donau, hein, en allemand, c'est une forme particulière de liquide. En réalité, les liquides que définissent Danu, car le mot lui existe, c'est ce que l'on appellerait plus exactement nous l'embrun. C'est-à-dire un liquide qui n'est pas compact, mais cette sorte de vapeur humide, mouillée, n'est-ce pas, qui, dans certains cas, auprès de la mer ou des fleuves, n'est-ce pas, et qui d'ailleurs souille les chevaux, n'est-ce pas. C'est dans ce contexte que le mot est utilisé dans l'Avesta. Les chevaux se souillent d'embrun en courant auprès des flots. Hein. Alors, qu'est-ce que ce mot Sudanu ou Hudanu accordé au feu, hein, qu'est-ce que cela signifie? Bien, ce qu'on demande, on dit quand sera-t-il dégoulinant? Quand sera-t-il dégoulinant? C'est cela que ça veut dire. Hein, dégoulinant, ben oui, de l'offrande de graisse. Hein, de l'offrande de graisse. Quand sera-t-il mouillé, ce feu? Hein, quand tombera-t-il des gouttes du feu, n'est-ce pas, à la suite de l'offrande de graisse? Donc voilà quelque chose de neuf à nouveau. Ce terme neuf, ça introduit la perspective des offrandes de la fin, n'est-ce pas? C'est ce feu auquel nous allons faire un hommage. Et alors, remarquez le reste, remarquez ce qui comble finalement le reste de notre strophe. La maison, le territoire, le pays. Bien, nous avons affaire au troisième rassemblement autour du feu. Troisième rassemblement. Nous avons vu le rassemblement de la triade du comportement. Nous avons vu le rassemblement des entités du panthéon. Et voici le rassemblement des cercles de l'appartenance sociale. Les hommes qui se trouvent autour du feu ne sont plus des individus. Hein. Ce ne sont pas les noms mentionnés séparément en énumération dans le Yasna 28. Ce sont les représentants de leur groupe social. Alors, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler fréquemment. On parlait fréquemment, la société avestique nous paraît organisé de manière très simple et très télescopique. Il y a des familles, il y a des clans, il y a des tribus, puis il y a une nation. Naturellement, je ne garantis pas cette traduction. C'est une traduction de commodité en nous référant aux termes usuels de l'anthropologie, c'est sûr. Mais nous avons un point de raccord. C'est tout de même, nous voyons bien ce que ces termes pourraient signifier, par exemple, pour Darius, dans le dernier quart du VIe siècle avant notre ère. Darius est fils de... C'est sa famille, n'est-ce pas ? Fils de Vishtaspa, famille. Il est achéménide à la 9e génération. La 9e génération à laquelle il remonte et qui est emblématique, qui lui donne le nom d'Achéménide, c'est son clan. Il est du clan achéménide. Alors, il ne nous dira pas quelle est sa tribu. Il ne nous dira pas. N'est-ce pas ? Ça, nous l'ignorons. Mais nous savons quelle est sa nation. Il est perse, ce qu'il dit lui-même. Il est perse. Donc, cette organisation, cette vision télescopique de la société, nous la trouvons dans tout l'Iran ancien. Naturellement, ça ne signifie pas que la taille de ces entités n'a pas été variable. Hein, parce que tout de même, je vous avoue que je cale un peu, n'est-ce pas, à attribuer les Gathas à une société où les nations aient la dimension de ce que sera plus tard la nation perse, bien sûr. Hein. C'est évidemment le gros problème. Nous ne connaissons pas la taille la taille de ce qui est évoqué ici. Mais voilà, pas, la société est maintenant elle aussi rassemblée. Les trois rassemblements ont eu lieu autour du feu. Hein. Et je voudrais dire aussi qu'avec cette mention, ce rassemblement social, s'éteint l'avant-dernière différence réductible avec le Yasna Tankaïti. N'oubliez pas comment s'ouvrait le Yasna 36, n'est-ce pas ? Nous formons le clan de ce feu, dit l'auteur du Yasna Tankaïti, en ouvrant la récitation de son texte de consécration du feu. Donc, d'emblée, il se présente comme un clan. L'évocation d'un cercle de l'appartenance sociale, ça nous manquait jusqu'ici. Hein. Elle est dans le Yasna Haptankaiti. Mais voyez, ce qui est à donner immédiat dans le Yasna Haptankaiti, c'est le deuxième mot de son chapitre, hein, Varzana, le clan. Eh bien, nous allons... C'est un chaînon du processus, à nouveau, dans la Gata ou Navaiti. Mais voilà la difficulté... l'avant-dernière différence irréductible éteinte avec le Yasna Haptankaiti. Alors, cela va bien sûr, nous sommes presque au bout du processus, nous n'aurons pas le temps d'en terminer aujourd'hui, il ne me manquera pas grand-chose pour le faire. Nous allons voir qu'à partir de la strophe 18, le climat va changer. C'est pour ça qu'à partir de la... Même si il y aura encore quelques petites opérations pour achever de donner au feu sa personnalité sacrificielle, on voit que ce qui va désormais retenir l'attention spécifique des récitants, c'est la situation d'antagonisme. Et c'est la mise en place de la situation d'antagonisme que la strophe des deux Manu laissait présager qu'il nous faudra désormais analyser. Et en achevant, bien sûr, sur les dernières opérations qui consistent à mettre le feu, rendre le feu parfaitement opératoire pour le sacrifice. Voilà. Avant de vous laisser, je voudrais faire une petite remarque. C'est que vous savez qu'au séminaire, nous lisons des textes. Aujourd'hui, je ne ferai pas le séminaire moi-même. Nous n'irons pas de texte. Mais nous avons un invité qui est M. Philippe Swenen, qui introduira techniquement, bien sûr, plus techniquement parfois que le cours ici, n'est-ce pas, qui introduira l'exposé que nous ferons la semaine prochaine, justement sur les daïvas et la personnalité des antagonistes. Alors, si vous êtes intéressé, assistons au séminaire si vous le voulez, voilà, bien sûr, sans obligation, comme toujours au collège. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci.